passante.
La bande passante. Nicolas Benita.
Hortense Boll.
Bonjour à tous, bienvenue dans votre maison et son éclectique musique à tous les étages. Vous êtes bien dans la bande passante. En ce mercredi 13 mai, le maître des lieux Alain Pilot m'a laissé les clés et c'est avec plaisir que j'assure l'intendance pour ambiancer mon premier salon de la rédac, le rendez-vous mensuel avec les critiques musique de la bande. À mes côtés, Anne Berthaud de Télérama. Bonsoir Anne.
Bonsoir.
Vous êtes entourée de Pierre Mikhailov.
Bonsoir.
Journaliste entre autres pour le magazine Rock and Folk et de Cyril Paziev, programmateur notamment au festival Wintercamp.
Bonsoir.
Alors du Mali aux États-Unis, en passant par la nouvelle scène Frenchie, entre envolées lunaires et plongées subaquatiques, nous allons ce soir recueillir vos impressions sur ce qui fait, selon vous, chers chroniqueurs, et selon nous, l'équipe de la bande, l'actualité discale. Au programme, dans le désordre, le Bongo Anastar, Flavien Berger, Fakir, Bassé Koukouyaté, Fool's Gold, Sons and Jerusalem in My Heart, et puis, celui par qui nous allons ouvrir cette sélection. J'ai nommé le doyen de la chanson française, monsieur Charles Aznavour. À bientôt 91 ans, bon pied, bon œil, il vient de livrer Encores. Entendez rappel à la scène en anglais, son 51e album. C'est le premier choix de la bande. Extrait.
Avec un brin de nostalgie, je nourris mon ancien pick-up de vinyle que j'avais acquis. Dans mes folles années bebop, je me verse un fond de whisky et laisse courir mes pensées embuées de mélancolie pour voyager dans mon passé. Passé jalonné d'interdits, d'amour secret et d'amour fou, qui viennent perturber mes nuits de solitude. Mais surtout, joue sur mes remords, mes regrets, tandis que mon écran s'emplit d'images animées, désormais avec un brin de nostalgie. Avec un brin de nostalgie, ma mémoire me joue des tours. Était-ce Lorraine ou Sophie qui m'a laissé tomber un jour? J'avais quoi? 16 ans et demi, jouant crânement les tombeurs. Et je me retrouvais groggy, avec des larmes plein le cœur. Mais à cet âge, on oublie, on vit de rêves et d'illusions. Les filles vont et se marient quand draguent encore les garçons. J'ai connu bien d'autres échecs qui pourtant ne m'ont rien appris. Depuis je fume et je bois sec avec un brin de nostalgie.
Avec un brin de nostalgie, c'est le titre qui ouvre le nouvel album de Charles Aznavour et qui en donne le ton puisque l'ensemble est somme toute assez mélancolique. 12 titres placés sous le signe des souvenirs. Charles Aznavour évoque avec regret son enfance, le bar de Fanny pendant la résistance ou encore la chanteuse Edith Piaf qu'il a bien connue. Bref, comme l'écrit Patrice Demailly pour RFIMusique.com, c'est le regard un brin résigné d'un homme dans le rétroviseur. Un homme qui a 70 ans de carrière au compteur, voire même 82 si on prend en compte le fait qu'il est monté sur scène pour la première fois à 9 ans. Un homme qui a composé plus de 1200 chansons, dont un paquet de tubes, et vendu plus de 180 millions de disques à travers le monde, et qui pourtant définit lui-même ce 51e album comme une aventure. Alors, est-ce que Charles Aznavour vous a embarqué avec lui dans cette aventure, Anne Berthaud?
Cette chanson, oui. Quand même, je trouve que les thèmes les plus familiers, les chansons les plus familières lorsqu'il parle de désolation, de vieillesse, d'amour, je trouve que c'est celle qui fonctionne le mieux. Celle-là, j'avoue, c'est tellement déprimant que j'adore. En revanche, j'aime beaucoup moins toutes les orchestrations classiques. Il y en a une notamment à l'accordéon, un peu dure. Et puis même les orchestrations citations, c'est tellement désuet que bon, voilà, tout est dans le titre finalement. Le dernier album, il s'appelait Toujours, et celui-là encore, il faut reconnaître qu'il sait bien choisir ses titres.
Alors justement, vous parlez des orchestrations, c'est Marc Di Domenico qui avait orchestré le superbe Jardin d'hiver dans Rey Salvador qui a produit cet album. Alors vous le disiez, un nappe de corps, piano, accordéon, un habillage somme toute un peu...
Désuet.
Voilà. Désuet. Est-ce que vous y avez été sensible, Cyril Bazieff?
Moi, c'est Pierre Mikhailov, mais...
Pardon, Pierre, je vous regarde. Mais dites-moi.
Dites-moi. Alors, sensible, j'étais sensible d'une façon, oui, mais peut-être un peu négative. Le titre, j'ai un petit peu transformé le titre pour moi, c'est plutôt avec un brin d'ennui. Et effectivement, c'est un artiste qui n'évolue pas, qui a figé son style une fois pour toutes dans le marbre. Il y a... comme vous le rappeliez, 70 ou 80 ans. Donc on n'est pas très surpris, mais je pense que le public qui aime sa musique, lui, ne sera pas floué, s'y retrouvera. Voilà, c'est de la chanson française très classique, avec la voix mixée très en avant, avec un beau piano à queue, et voilà, et tout ronronne tranquillement. Mais
il a quand même des histoires encore à nous raconter, hein. Il nous sort
c'est des histoires
qu'il
a déjà racontées aussi.
Les prénoms des
amoureux changent, mais c'est un peu toujours les mêmes histoires.
Ouais, Pierre, vous l'avez dit, la voix est un peu fatiguée quand même. Oui. Vous alliez le dire.
J'allais le dire.
Cyril, ça n'empêchera pas Charles Aznavour de se produire pendant 6 soirs au Palais des Sports de Paris au mois de septembre, parce qu'apparemment, il s'agit de la seule salle parisienne dans laquelle il n'a pas encore chanté. Vous y serez, Cyril?
Alors non, je n'y serai pas et je fuirai loin de Paris pour éviter tout contact avec cette sympathique personne. J'ai pas grand chose de plus à rajouter que mes comparses. Effectivement, au-delà des textes vus et revus, une voix un peu fatiguée, des compositions vieillottes, et effectivement un premier titre presque généreux et honnête. Le reste me paraît, c'est un petit peu exagéré de dire malhonnête, mais un tantinet opportuniste. Donc du coup, je passe assez rapidement sur cet album.
Bon bah très bien, on ne va pas s'étendre et on va passer au choix d'Anne Berthaud, le nouvel album de Bassekou Kouyaté Ngoniba, enregistré à Bamako, tout près de l'antre familial. Cet album, il s'appelle Ba Power, ce qui en Bambara signifie la force, le pouvoir du groupe. Sur RFI, c'est le salon de la rédac avec à l'instant le titre Sirène Fen, extrait du nouvel album et quatrième album de Bassekou Kouyaté, l'homme qui a révolutionné l'utilisation d'une goni, le luth des griots, notamment, mais pas seulement, le branchant sur une pédale wah-wah. Pierre Mikhailov, est-ce que vous avez été sensible au côté électrique et très rock de cet album?
Oui, énormément, parce que là, on n'a pas écouté le morceau en entier, à un moment donné, il y a un solo de Ngoni qui va démarrer, ouais, qui est absolument sublime. On ne sait pas d'ailleurs quel instrument on est en train d'écouter, tellement le son est électrique. C'est assez étonnant. Il faut regarder aussi le clip qui est trouvable facilement sur le net, le clip de ce morceau qui je trouve, exprime bien l'ambiance du disque et l'ambiance de ces musiciens. Le clip est filmé dans la cour d'une maison, comme ça. Ils sont pris au milieu de leurs amis, de leur famille. Il y a des enfants qui dansent et la musique se fait comme ça, naît spontanément, et c'est vraiment le reflet de l'album qui a de savoureuses influences des années 70, de la pop des années 70. Enfin, tout ça fait un savoureux mélange et un très bon album.
Oui, il faut dire que c'est une histoire de famille, Anne Berthoin, ce groupe.
Oui, il joue avec ses fils et puis c'est sa femme qui chante. Cette voix incandescente, la Misako, qui est absolument sublime. Donc ça fait un bon mélange. Moi, je trouve qu'il est à la fois virtuose techniquement et à la fois il a le côté flamboyant qui le rend accessible à tous. On entend vraiment quand on dit que c'est le Jimi Hendrix du Ngoni, je trouve que ça s'entend vraiment. Et puis en plus, c'est pas un effet de mode. Il avait déjà fait un super album il y a 2 ans. Il recommence, c'est toujours aussi bon. Et dans la flopée de choses maliennes qui sortent, très bonnes d'ailleurs, hein, celui-là, je trouve quand même il est au-dessus du lot.
Cyril, vous êtes d'accord ?
Ah oui, complètement d'accord. C'est ultra moderne. Je trouve qu'il y a un son très soyeux. J'aime beaucoup la production. Je crois que c'est un artiste américain qui l'a réalisé. Ce qu'il faut dire aussi, c'est quand même que il y a plusieurs titres comme celui qu'on vient d'écouter qui sont très, traditionnel blues malien d'une certaine manière, enfin avec une vraie consonance de blues, et puis d'autres beaucoup plus traditionnels qui m'ont un peu plus perturbé, il faut le dire, parce que je pense que j'ai pas les clés, tout aussi éclatant, magnifique, mais il y avait une dimension plus moins incandescente, moins transcendantale, qui m'ont moins touché, mais au-delà de ça, un artiste fabuleux, quoi.
Anne, vous avez quelque chose à rajouter ou on s'en réécoute un petit bout?
On s'en réécoute un petit bout,
bon, c'est voilà. Ça chauffe. Alors, Basekou Koyate Ngoni Ba sera en concert ce samedi 16 mai à Aulnay-sous-Bois et le 20 mai au New Morning à Paris. Le salon de la rédac continue sur RFI avec le deuxième choix de la bande. Voici Flavien Berger, parisien et manipulateur de son de 28 ans avec le titre Gravité. Le ciel est dans tes pieds. Satan, lorsqu'il est évoqué dans les récits bibliques, évoque tout à la fois l'idée de chaos originel et de refonte potentielle du monde. Colossal et grandiose, on l'envisage comme un monstre marin, sorte de créature aussi proche du serpent que du dragon à écailles. Léviathan, c'est aussi le nom du premier album de Flavien Berger, un album très très bien accueilli par la critique hexagonale. Voici quelques morceaux choisis, fascinants, détonnants, délicieusement électro, planants à souhait, un premier album luxuriant, expérimentation de son électronique shooté à la poésie surréaliste, une réussite qu'on ne peut oublier. Bref, est-ce qu'Anne Berthaud, vous avez été vous aussi conquise par ce Léviathan?
Assez conquise, oui. Je trouve que, alors, peut-être que vous allez me sauter dessus, mais dans le genre loufoque et perché, ça me fait penser un peu à Sébastien Tellier. Mais en plus, limité dans le texte à la fois, mais en même temps plus profond et plus transcendant. Je trouve qu'à force de conceptualiser, ça devient vraiment très poétique, quasiment tellurique sur certains morceaux. Et alors moi, mon préféré, c'est le morceau titre, Léviathan, qui dure 15 minutes. Et je le trouve profond. Je trouve qu'il a une vision, c'est habité, c'est assez fort, voilà, comme conception du chaos.
Alors, Aznavour nous proposait un voyage dans le passé. Flavien Berger, lui, c'est plutôt un voyage dans le temps. Est-ce que ce voyage, pour reprendre les mots de Flavien Berger, a inversé le sens des flots de votre sang, Pierre?
Voilà, c'est une question tellement poétique.
Je répondrai
au cours
Est-ce que ça vous a chamboulé de la prochaine émission.
Et ça ne m'a pas chamboulé. Je veux dire que, en général, je suis assez méfiant quand un artiste fait l'unanimité critique comme il vient de le faire. Mais en l'occurrence, là, c'est tout à fait mérité et je trouve que c'est un superbe album et pour moi, c'est une superbe découverte, cet artiste, encore relativement jeune, ma foi, puisqu'il n'a que 28 ans. Et chez qui on sent des influences que j'aime bien, comme par exemple Richard Pinas.
J'étais peut-être soufflé par référence, Cyril, désolé.
Alors, Richard Pinas,
pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un des pionniers de la musique électronique française et qui est également guitariste. Et je trouve qu'il y a dans les sonorités de Flavien Berger ce genre de réminiscences, comme des réminiscences d'Alan Vega aussi, un rocker new-yorkais expérimental qui sévit depuis la fin des années 70. Donc voilà, ce mélange d'influences modernes, anciennes. Qui me plaît beaucoup et qui me plaît beaucoup aussi sur le label Pan-European Recording qui sort ce disque et qui a tout un catalogue des plus intéressants
à découvrir. Oui. Donc, alors Flavien Berger sera entre autres en concert au Wheel of Green le 31 mai, à la Route du Rock le 15 août. Est-ce que vous pensez à le programmer pour la prochaine édition du Wintercamp Festival qui aura lieu en décembre prochain?
Ce serait avec plaisir, nous verrons bien. Nous l'espérons en tout cas.
En attendant, dites-moi tout.
En attendant, bah, effectivement, je suis plutôt d'accord avec mes collègues du jour. Alors, une autre référence finalement que Richard Pinas, qui est aussi une forme d'élève de Richard Pinas, c'est Étienne Jomet. Je trouvais du coup que ça faisait longtemps qu'on attendait une forme de relève à Étienne Jomet qui sévit depuis un petit bout de temps. Et là, enfin, on trouve qu'un grain à sa hauteur.
Étienne Jomet, alors pour ceux qui ne connaissent pas,
Artiste également expérimental. Issu aussi d'une scène électro qui travaille notamment sur des projets avec Richard Pinas, donc c'est complètement dans cette lignée poético-électronico-expérimental. Je sais pas trop comment les nommer, mais
c'est très bien dit.
Voilà, je pense que c'est bien résumé. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que avec un artiste comme Flavien Berger, on mêle aussi bien une des ambiances et des structures, des textures de son, qu'une vraie profondeur dans le texte.
Il faut parler de sa voix aussi, parce que sa voix est très très belle. Je trouve une voix blanche comme ça, sans beaucoup
de. Le mot qui m'a le plus, qui m'est venu en tête, c'est vraiment le mot aquatique. Je rejoins ce que vous disiez en introduction.
On va se quitter sur ce mot, Cyril, et se retrouver après le tour du monde de l'actualité. À tout de suite. Musique. Retour de la bande. passante sur RFI avec le Salon de la Rédac, notre rendez-vous mensuel très critique avec les chroniqueurs musique de la bande, Anne Berthaud, Pierre Mikhailov et Cyril Bazieff. Rebonsoir.
Rebonsoir. Rebonsoir.
Dans un instant, nous allons découvrir votre coup de cœur du mois, Cyril, ainsi que les deux autres choix de la bande. Mais là, tout de suite, maintenant, Incontinent, c'est la nouveauté défendue par Pierre Mikhailov, Fool's Gold sur RFI avec I Am In Love. La bande passante. L'album Leave No Trace, les Californiens de Fool's Gold reviennent avec Flying Lessons, un long format aux saveurs toujours aussi tropicales. Alors Cyril Bazieff, dites-moi, est-ce que vous êtes in love à l'image de ce titre?
Bah, pas trop, et je suis même étonné d'ailleurs du choix de Pierre.
Allez, ça commence.
Je suis quelqu'un d'étonnant, mon cher.
Du coup, je me sens presque obligé de d'utiliser des arguments que Pierre utilise généralement en mon encontre.
À votre encontre.
À mon encontre, pardon. Donc je trouve que Fool's Gold là du coup a pas mal de mal à se renouveler. C'est-à-dire qu'ils utilisent des recettes déjà existantes de leur précédent album, mais aussi d'albums d'artistes plutôt connus aux ambiances électro tropicales ou pop tropicales type Vampire Weekend ou Friendly Fires ou des choses comme ça. Une scène issue quand même du milieu des années 2000, et du coup là on tombe sur un projet qui effectivement est plutôt bien produit mais qui a pas beaucoup de saveur et qui me passe un peu au travers des oreilles quoi. Donc j'attendrai plutôt le prochain album de ces artistes californiens, je crois,
oui,
ou en tout cas
ça, ouais.
En partie californiens, pour les élever en tant que groupe fondateur de cette scène pop. J'attendrai quand même hein. Mais je crois longtemps.
Anne Berthaud, est-ce que vous pensez que cet album peut avoir le même succès que celui fascinant, fulgurant de leur premier album Surprise Hotel en 2009?
C'est ça qui est cool avec moi, c'est que moi, comme je n'y connais rien du tout dans ces musiques, moi je découvre et j'achète. Surtout cette chanson, j'adore, je trouve ça euphorisant, léger.
Ça sent les vacances, la plage.
Complètement. Et surtout, en plus, on ne s'ennuie jamais, parce qu'à chaque fois, il y a quand même des petites nouveautés, des petites couleurs ici et là, hawaïennes. Il y avait des guitares touareg sur un morceau aussi. Du coup, on voit pas le temps passer. Voilà, il y a des rythmes assez funky, et puis les guitares sont mine de rien assez subtiles aussi. C'est pas que léger. Enfin, c'est léger, mais c'est léger intelligent. Voilà, il y a un côté vaporeux, estival. Oui, mais pas que. Voilà, j'ai vu quelqu'un a trouvé le mot tropicalif là, tropical et californien. Je trouve que c'était assez bien trouvé. Ça me parle complètement.
Pierre Mikhaïlov, choix.
Moi, je crois que ça va être ma bande son de l'été. Là, on est au mois de juin, il commence à faire beau. Je pense que c'est idéal pour sortir ça, pour aller avec sa chemise hawaïenne, ses tongs et sortir la crème à bronzer.
On est encore au mois de juin,
moi je le sens comme ça. Là. Je pense que Cyril devrait bronzer un petit peu là. C'est pour ça qu'il apprécie pas cette musique. Je trouve que leur force aussi, c'est à chaque fois qu'ils sortent un album, il y a un tube monstrueux dessus. Et là, c'est le titre qu'on vient d'écouter là, qui est vraiment un carton absolu. C'est une mélodie complètement imparable. Voilà, et c'est un groupe qui en plus est fan de Françoise Hardy, dont je suis fan aussi, donc ça nous fait un point commun.
Et donc sur l'album, vous, votre sentiment, c'est qu'on se lasse pas?
Non, c'est pareil, je suis d'accord avec Anne, je trouve que l'album est très riche, très varié, en même temps subtilement varié, c'est des choses. Un album qui peut être reproduit sur scène, je les ai vus sur scène, et il y a aucun instrument en plus quasiment sur l'album, c'est guitare, batterie, percussion, voix, et tout ça marche très bien sur scène aussi.
Et vous disiez avoir été un peu déçu quand même.
Oui,
Pierre.
Je trouve que le guitariste devrait se censurer un peu, il fait un petit peu trop de solo en permanence. Mais
comme
sinon,
les guitaristes congolais.
Ça doit être un défaut des guitaristes, qu'ils soient californiens ou congolais. Mais sinon, je leur mets un 9 sur 10.
Bon, et bien le salon de la rédac continue sur RFI avec le 3e choix de la bande. Enfin, disons plutôt que c'est le choix de Nicolas Benita, notre motard et réalisateur préféré. Son vrai nom, c'est Théo le Vigoureux, mais sur scène, derrière ses machines, c'est Fakir. Voici le premier single de son EP apparaître en juin, Asakusa. Ou Asakusa, Asakusa? Bon allez, Asakusa.
Yeah.
L'électro comme un voyage sans destination. Voici le concept du jeune français Fakir. Alors, vous a-t-il emmené avec lui sur son tapis volant, Anne Berthaud?
J'aime bien le sans destination. C'est tellement bien trouvé.
C'est pas ça moi qui l'ai inventé, hein. C'est sur son, sa page SoundCloud. Donc,
Alors, ça commence très bien. Ces gros beats, là, bien sympathiques. Moi, je pars n'importe où, avec des gros beats pareils, mais je vais pas très. C'est affreux. Mais je ne vais pas très loin avec ce fakir. C'est beau piquer les fesses. C'est moi, une boucle vocale avec deux notes et une petite voix japonisante, ça me fait pas voyager. La recette aurait pu être efficace, mais je trouve que ça tombe à l'eau. C'est interminable, ce genre de mixture synthétique pour bar d'ado branché. Ça me ressort, ça me rentre par une oreille, ça me ressort aussitôt. Ça manque d'exotisme, ça manque de musique. Pour
bon, ben voilà, ça c'est dit. En tout cas, depuis 2013 et son premier EP, Morning in Japan, ses compositions électro aux couleurs d'ailleurs font l'unanimité partout où il se produit, semble-t-il. Il était au Printemps de Bourges, Nicolas Benita d'ailleurs y était aussi. Il sera fakir à Solidays en juin et puis à l'Olympia de Paris le 8 octobre prochain, c'est pas petit. Enfin, moi dans le même registre, hein, je connais Nicolas Jarre que j'aime beaucoup plus et avec son projet Darkside, lui aussi a fait l'Olympia, c'était il y a tout juste un an, je le sais, parce que c'était complet et que j'aurais bien aimé être de la partie. Ça vous inspire quoi, Cyril Bazieff, que des producteurs électro fassent l'Olympia comme ça?
Ça me rassure d'une certaine manière, c'est-à-dire que du coup le public s'est quand même ouvert une nouvelle musique, je dirais. En même temps, on peut se dire que des artistes comme Fakir ont su mainstreamiser, je dirais, ce style. On parlait tout à l'heure de Richard Pinas, qui est finalement, d'une certaine manière, un instigateur et un référent pour cette scène, même si je pense que Théo ne doit pas connaître Richard Pinas, mais en l'occurrence, c'est quand même un des pionniers en la matière, et moi, je suis plutôt heureux de voir que des artistes comme ça peuvent remplir des grandes salles. Après, au-delà de ça, je pense que effectivement, Fakir est une forme très généraliste et très traduite de ce qu'est la musique électronique, très simplifiée en fait. Et en l'occurrence, il me déçoit énormément. Je trouve qu'il y a une musique assez opportuniste une manière très opportuniste d'aborder la musique. C'est-à-dire que effectivement, c'est efficace quand il s'appelle Fakir. Il fait du Fakir, ça reste toujours la même chose, une voix japonisante, des beats qui partent assez rapidement. Ça monte, ça descend, et puis ça se finit, quoi.
Il n'y a pas que des voix japonisantes, mais bon.
C'est vrai, mais c'est une recette quand même qu'il a déjà employée sur ses précédents EP, et j'ai un petit peu peur que du coup, un artiste comme ça ne sache pas se renouveler. Et la problématique, pour le coup, c'est qu'il prend beaucoup la lumière sur d'autres artistes, tels que Nicolas Jarre, par exemple, mais d'autres, comme Superpose, qui est un artiste issu de la même ville de Caen, je crois que Théo Fakir est de Caen aussi, et... Ils ont quand même il y a un peu plus d'intelligence dans le traitement chez Superpose.
Il faut dire qu'il est très jeune, hein, je crois qu'il a qu'une vingtaine d'années, et il le dit lui-même, il a très peu de culture musicale, même électronique, quoi. Donc, vous, Pierre Mikhaïlov, est-ce que la musique à câlin pour Sushi, parce que c'est comme ça qu'est décrit ce titre, vous a plu? Musique à câlin pour Sushi.
Elle manie plus, ni déplus, c'est surtout qu'on est ramené en plein dans les années 90. Je trouve que le jeune âge d'un musicien n'excuse rien, quand on est musicien,
non, j'essayais de trouver des arguments pour défendre le choix de Nicolas Benita, mais j'avoue que moi-même je suis un peu à court.
Et malheureusement pour Nicolas Benita, je trouve que c'est... Le titre expose quelques idées au début qui sont répétées pendant tout le morceau et on ronronne comme ça pendant 5 minutes et on n'a plus de surprise et du coup l'ennui s'installe. Je trouve que pour un jeune artiste, c'est d'autant plus grave d'être aussi conservateur, aussi consensuel et à court d'idées. Donc, je ne suis pas sûr d'aller à l'Olympia en octobre.
Et bien, en plus d'être critique, le salon de la rédac du jour est décidément, vous l'allez entendre, très synthétique. Cyril Bazieff, est-ce que je peux vous demander de lancer l'album et surtout le titre qui a retenu votre attention ce mois-ci?
Alors, il s'agit de Suns et Jérusalem My Heart.
Et le titre est imprononçable,
je vous laisse le découvrir.
On va l'écouter. and Jerusalem in my heart sur RFI. C'est le salon de la rédac et c'est le choix de Cyril Bazieff. Alors Cyril, vous m'arrêtez, mais je crois, si j'ai tout bien compris, Sons, c'est un quatuor montréalais de rock indé.
Tout
et Jerusalem in my heart, c'est le projet expérimental d'un de leurs camarades qui est libanais, qui s'appelle Radwan Ghazi Mounni.
Tout à fait.
Et ensemble, eh bien, les cinq garçons, figurez-vous, ils travaillent tranquillement, mais sûrement, depuis plus de deux ans, à cette EP de 7 titres. Résultat, un mariage rock rétro-futuriste, et de musique psychédélique, inspirée du Moyen-Orient. C'est un peu ça, la recette.
C'est plutôt bien résumé, effectivement.
Bon, et Pierre, est-ce que cette collaboration a retenu toute votre attention?
Ça a retenu mon attention parce que j'ai bien fait mes devoirs, j'ai écouté attentivement ce peine.
Avec le casque.
Comme il se doit, avec ou sans casque. Et je suis pas entré dedans, alors peut-être que ça nécessite des écoutes supplémentaires, mais je trouve que ça part un peu dans toutes les directions, je sens pas trop où ils veulent en venir, je m'ennuie un peu. Je trouve que c'est quand même assez monotone, parce que les climats, ce genre de climat revient beaucoup au fil des 7 titres. Donc voilà, je sens une certaine beaucoup de sérieux chez ces musiciens et j'aime bien qu'il y ait un peu de fun dans la musique, un peu plus de folie, de débordement. Et là, je trouve que c'est un peu trop retenu.
Mais il faut le dire. Alors le morceau qu'on vient d'écouter, c'est plutôt ambiante, quoi. Je sais pas comment vous qualifieriez ça, Cyril. Mais il y a des morceaux quand même très fâchés sur cette EP, très métal, des sons très très électro. Oui, c'est vrai qu'on part un peu dans tous les sens. Anne, qu'est-ce que vous en avez pensé?
J'ai trouvé plutôt fâché, moi, ce morceau. Enfin, moi, j'ai bien écouté, comme je lisais sur les Arocs avec le casque, ça m'a tout de suite enveloppé, cette espèce de transe là, ovniesque, cosmique, assez épique même. J'ai entendu aussi beaucoup d'émotions différentes à travers les morceaux, à travers différents morceaux, de la rage, du désespoir, un petit côté apocalyptique aussi. Il y a un côté, mine de rien, il faudrait s'en méfier sur certains morceaux, un côté Midnight Express qui est transcendé la plupart du temps, oui, par un certain travail de texture, mais le côté répétitif qui structure tous les morceaux, je trouve plombe quand même certains morceaux. Donc il y a ce genre de morceaux, celui-là m'emballe, je me souviens pas du titre. Il y en a d'autres aussi qui m'ont pas mal emballé, et il y en a d'autres où voilà, comme dit Pierre, j'ai ça, au bout d'un moment je lâche l'affaire, c'est trop long, trop répétitif, et puis ils sont pas tous égayés par ces petits motifs
voilà. Du Moyen-Orient.
Moi, j'ai pas trop entendu le Moyen-Orient.
Je trouve qu'il y avait quand même quelques références assez notables, et c'était plutôt
des chants,
c'était ouais, plutôt intéressant. Ouais, des chants ou même des riffs de guitare, quoi.
Bon, Cyril, c'est à vous là, vous
voilà,
défendre le morceau.
Je pars, il faut que je me défende quand même. Juste pour dire pourquoi ce choix. Alors déjà parce que Sons est pour moi devenu au fil des années, donc ils en sont à deux albums en leur nom et un troisième au travers de cette EP, sont devenus une véritable référence à mes yeux, presque un groupe culte, aussi bien sur scène avec des moments de vidéo mais extrêmement bien ficelés, tout en jouant extrêmement bien sûr. Donc une référence et un groupe culte, et du coup je ne pouvais pas passer à côté d'une présentation de cet artiste, de ces artistes associés aujourd'hui. Effectivement, je rejoins quand même mes collègues dans le sens complexe, en tout cas dans l'approche de cet album, mais il faut aussi se rappeler que c'est un projet qui est né d'abord du live, avec bien sûr de la vidéo, donc il y a tout un univers qu'on ne perçoit bien sûr pas, ou que très peu au travers de cet album, et enfin en tout cas à l'écoute au casque ou en chaînifi. Et voilà, bon, en l'occurrence pour moi ce projet c'est quand même presque l'anti-fakir, c'est-à-dire qu'il y a des textures, c'est travaillé, il y a une réflexion, c'est brutal et non pas sautillant, il y a un côté lancinant, bref c'est pas marrant, mais c'est quand même intéressant.
Il n'y a pas vraiment de composition, il n'y a pas vraiment de chansons, ça manque de vrais compos.
Je suis pas d'accord. Il y a un truc, c'est un vrai voyage. Il y a une destination là pour le coup.
Bon,
un
en voyage tout cas, cosmique. Ça a suscité des avis. C'est ça qui est intéressant aussi dans le salon de la rédac. On va le refermer justement, ce salon de la rédac, avec le quatrième coup de cœur de la bande. Il va à l'endroit du collectif congolais Bongwana Star, ici en featuring avec le Konono numéro 1, Moulukae sur RFI. TF1 du salon de la rédac une fois par mois dans la bande passante avec, et là ça n'engage que moi, la nouveauté du moment, le premier album du Bongo Anastar From Kinshasa qui sera dans les bacs mardi prochain. Le Bongo Anastar, c'est deux anciens du staff Benda Bilili, Coco et Théo, les deux principaux auteurs, compositeurs d'ailleurs de ce groupe qui malheureusement n'existe plus. Ils reviennent entourés de six jeunes musiciens de Haute Voltige avec un nouveau projet. Ce projet, il est produit par Liam Farrell, aka Doctorel, qu'on a connu pour ses collaborations notamment, j'ai un gros trou, avec le batteur, voilà, Tony Allen, le batteur de Fela Kuti. Anne, dites-moi s'il vous plaît, que cet album vous a procuré le même choc que quand vous aviez écouté très très fort le premier album du staff Benda Bilili, le sentiment d'entendre quelque chose de vraiment nouveau.
Et ben c'est exactement ça, je trouve qu'ils se font une nouvelle jeunesse, ils arrivent à se reconvertir encore, c'est bluffant. Bon, alors ils sont pas tout seuls parce qu'on sent quand même beaucoup l'intervention de Dr. L qui transforme tout ça, qui est un adepte de son saturé, amplifié. On l'entend vraiment dans les guitares, dans les percussions, on l'entend beaucoup, mais enfin mine de rien on entend bien les voix lancinantes aussi, elles sont bien là, et ils font quelque chose qui n'a rien à voir avec la rumba dézinguée du staff, ils font carrément autre chose, une espèce de mixture tribale un peu punk, roots, il y a du trip-hop aussi. Voilà, donc oui, j'ai été complètement surprise, en tout cas, bonne surprise. Après, il y a certains morceaux où je trouve que ça, ils savent pas terminer. Voilà, il faut être dans le mood, en fait. C'est une espèce de transe, c'est hypnotique. Bon, ça dure. Il y a des morceaux que je trouve un peu longués. Mais enfin, chapeau quand même, chapeau, voilà.
Cyril Baziev, je sais que vous avez été conquis également.
Alors, vous avez devant vous un fan absolu du staff des premières heures, donc effectivement, je partais avec un a priori plus que positif autour de ce projet et je suis mais totalement emballé par le titre que nous venons d'écouter. Mais alors il y a une claque absolue chez moi, c'est le titre qui s'appelle Kala, qui est un beaucoup plus hip-hop en l'occurrence. Pour moi c'est le titre de l'année, vraiment je l'écoute en boucle et j'arrive pas à m'en défaire. C'est fin, c'est fort, c'est électrique, c'est africanisant, c'est effectivement hip-hop voire trip-hop et même dub, mais c'est surtout très moderne. Et bon, bah voilà, c'est une claque. On va avoir du mal à s'en sortir là.
Pierre-Michel.
Alors j'ai moins ressenti la claque. Moi, je trouve qu'effectivement c'est très original. Il y a plein de petits détails très agréables qui caressent l'oreille, une production magnifique et très moderne. Cependant, je trouve que tout cela cache quand même un manque de composition. Je trouve que les idées se répètent un petit peu au long du morceau, ont tendance à s'installer et un petit peu à se répéter. Et voilà, je trouve que ça manque de consistance. La sauce est très bonne, mais je trouve que voilà, ça manque un petit peu de.
Moi, je pense qu'il faut qu'on aille vérifier ce que ça donne en live.
Ah, oui, absolument. Ouais.
Alors, il y a juste un Cocos Blues aussi. Il y a une chanson bluesy qui est très belle. Ouais, voilà. Ouais. On précise qu'elle n'a rien à voir avec le reste de l'album.
En tout cas, il y a une grosse tournée française en préparation avec un arrêt le 22 mai au Festival Musique Métisse d'Angoulême où la bande passante sera également d'ailleurs. Et puis le 25 mai, un concert au Cabaret Sauvage. Moi, j'y serai, je pense que ça va être chaud.
On y sera tous.
Anne Berthaud, Cyril Baziev, Pierre Mikhaïlov, merci infiniment à tous les trois d'avoir été avec nous. Demain, chers auditeurs, j'aurai le plaisir de vous retrouver ici même avec un invité masqué, le beatmaker japonais Azagaya. Tout de suite, le journal en français facile. Bonne soirée à l'écoute de la Radio Mondiale.